VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a appelé aujourd'hui les habitants de Delhi à la paix et à la fraternité après des violences intercommunautaires qui ont fait 20 morts et près de 200 blessés dans la capitale indienne. Des heurts entre partisans et opposants d'une loi controversée sur la citoyenneté, jugée discriminatoire envers les musulmans par ses détracteurs, ont dégénéré en affrontements communautaires entre hindous et musulmans. Ce texte a cristallisé les craintes de la minorité musulmane d'être reléguée au rang de citoyens de seconde classe dans cette nation où les hindous représentent 80% de la population. La loi a provoqué les plus importantes manifestations dans le pays d'Asie du Sud depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014. Ici aux États-Unis, assailli de critiques par ses rivaux, le grand favori des primaires démocrates Bernie Sanders a martelé mardi que son programme, très à gauche, pouvait le porter vers une victoire contre Donald Trump en novembre. Les échanges acerbes entre les candidats à l'investiture démocrate lors de ce débat, particulièrement animé, étaient à la hauteur des enjeux. 4 jours avant un vote crucial des primaires démocrates en Caroline du Sud, plusieurs jouaient ici leur dernière chance de rester en lice. L'ancien vice-président Joe Biden, longtemps considéré comme le favori dans la course à l'investiture du Parti démocrate, doit nécessairement arriver en tête en Caroline du Sud pour préserver ses chances de victoire. Ce débat est le dernier organisé avant la primaire de Caroline du Sud samedi et le Super Tuesday le 3 mars. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé mercredi les États-Unis, ennemis jurés de la République islamique, de répandre la peur autour du nouveau coronavirus dont le bilan en Iran est de 15 morts, soit le plus lourd après celui de la Chine. L'épidémie touche de plus en plus de pays, y compris en Europe. Elle concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'États où elle a fait plus de 40 morts et 2500 contaminations. Bagassi Koura.
En Corée du Sud, les contaminations ont bondi pour atteindre près d'un millier de cas. Ce pays qui compte 10 morts est le premier foyer mondial après son voisin chinois. Le Japon a annoncé le décès d'un quatrième passager issu du paquebot Diamond Princess où près de 700 personnes ont été infectées. Téhéran a annoncé 3 nouveaux décès portant son bilan à 12 morts, le plus lourd en dehors de la Chine. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 7 morts et près de 300 personnes contaminées. L'Autriche voisine a annoncé 2 premiers cas. La Suisse aussi a son premier cas dans une région proche de l'Italie. En Croatie, un jeune homme est devenu le premier cas connu dans les Balkans. 2 nouveaux cas ont été confirmés en France où 14 cas ont été détectés, 1 mort et 11 considérés comme guéris. L'OMS s'inquiète des risques pour les pays pauvres et mal équipés et la Chine est prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains, a déclaré le président Xi Jinping.
L'Algérie, sur le continent, a annoncé hier un premier cas confirmé de contamination au coronavirus, précisant qu'il s'agit d'un patient italien arrivé le 17 février et placé depuis à l'isolement. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a indiqué sur Twitter qu'il avait ordonné aux autorités sanitaires de prendre des précautions maximales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Égypte s'apprête à rendre aujourd'hui les honneurs militaires à Hosni Moubarak lors des funérailles de l'ex-président décédé mardi, qui a régné pendant 30 ans avant de quitter le pouvoir en 2011 sous la pression du printemps arabe. Une cérémonie officielle doit se tenir en son honneur à partir de 12h GMT à la mosquée Al-Mushi Tantawi dans l'est du Caire. Au lendemain de son décès, à l'âge de 91 ans, dans un hôpital, il doit ensuite être enterré dans le tombeau familial à Héliopolis, dans l'est de la capitale égyptienne. Le Soudan a envoyé une délégation à Washington pour assister à des négociations avec l'Égypte et l'Éthiopie sur le projet de méga barrage éthiopien sur le Nil. La réunion aura lieu les 28 et 29 février. Abdourahman Dia.
La rencontre tripartite devra se pencher sur une proposition du Trésor américain visant à aplanir 2 des principaux points de friction, le remplissage du réservoir et la mise en route du barrage. Situé sur le Nil Bleu, le grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, mais la question de la redistribution des ressources du fleuve crée des tensions entre Addis-Abeba, Khartoum et le Caire. Après 9 années de blocage, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent depuis novembre 2019 des discussions pour trouver un accord entre les 3 pays. Si l'Égypte, qui dépend très majoritairement du fleuve pour son approvisionnement en eau, marque son opposition de manière virulente à ce projet, le Soudan le voit d'un bon œil. Khartoum espère que le barrage éthiopien lui fournira de l'électricité et contribuera à réguler les crues du fleuve.
Cameroun Human Rights Watch a accusé mardi les forces gouvernementales et une milice Peul alliée d'avoir perpétré le meurtre d'une 20aine de civils, dont 13 enfants, le 14 février en zone anglophone, en proie à un sanglant conflit séparatiste. L'armée a démenti dès les premiers jours, assurant qu'il s'agissait des conséquences d'un malheureux accident, l'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et rebelles séparatistes, et n'a donc évoqué que la mort de 5 civils. Quelques 300 personnes ont célébré mardi à Kinshasa en RDC une messe à la mémoire des martyrs de la démocratie tués début 2018 dans des marches demandant le départ de l'ancien président Joseph Kabila. À l'origine de la messe et des marches de 2018, le collectif chrétien du Comité laïque de coordination, CLC, a demandé aux autorités justice pour les familles des victimes. Le CLC demande aussi au gouvernement congolais que la date du 16 février soit reconnue officiellement dans le calendrier national comme jour férié en hommage aux martyrs de la démocratie. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Des procédures sont ouvertes au niveau des parquets et des interpellations ainsi que des détentions préventives ont été opérées parmi les personnes frappées. Un entrepreneur américain, un Libanais, un dossier dédié à Sango.
Mardi matin, Jamal Samit, sujet libanais, patron d'une société nommée Samibo, a été placé en détention préventive à Makala, accusé de n'avoir pas réalisé la construction des 4500 logements sociaux alors qu'il avait perçu 17 millions de dollars. Réaction du président de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, Ernest Mpararo.
C'est une intervention effectivement normale parce qu'il y a eu des infrastructures qui avaient été financées par les fonds du gouvernement et nous observons à Kinshasa que ces infrastructures-là, ces projets-là n'avancent pas. Ça fait à peu près une année que ces infrastructures-là étaient financées, mais nous persistons à ce qui se passe, c'est que ces infrastructures n'avancent pas. La grande majorité des Congolais dénoncent ce genre de faits et c'est ainsi que le chef de l'État a réagi en ordonnant effectivement au parquet d'investiguer et d'interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans ces détournements. Ce n'est pas encore un signe que ça va produire un fruit parce que tout ce qui se passe lorsque l'appareil judiciaire est hyper politisé en RDC, et la première chose que nous demandons aux politiques, ce n'est pas interférer dans la procédure ou lorsque le parquet est en train d'entendre ou d'investiguer. Et c'est ce qui est le plus grand problème.
Vendredi, l'Américain David Blattner, patron des Africas, a été lui également mis en détention préventive pour des viaducs ou sauts de moutons dont la construction de certains n'a pas encore débuté près d'un an après. Le député de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, estime que la démarche du président Félix Tshisekedi doit aller jusqu'au bout.
Ce n'est pas ça la fin de la procédure. Si ça vrai que ces messieurs l'avaient perçu de l'argent, qu'ils n'avaient pas du tout travaillé, ils doivent commencer par restituer l'argent de l'État qui m'appartient, qui appartient à tous les Congolais, et qu'ils soient punis sévèrement. Qu'ils soient Libanais, qu'ils soient Américains, qu'ils soient Chinois, on s'en fout de sa nationalité, on s'en fout de leur nationalité. Nous, c'est l'argent du Congo.
Dans le même temps, une plateforme d'ONG demande au président Félix Tshisekedi d'ordonner des audits des entreprises de Dan Gertler, homme d'affaires israélien opérant en RDC. Un des membres de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre », Emmanuel Mpula, nous en parle.
L'État congolais, à travers ses entreprises, a perdu beaucoup d'argent. Donc, c'est tout à fait normal, dans le cadre du contrôle citoyen, que la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » puisse demander à ce que le président de la République autorise le gel des avoirs de ces entités-là, mais aussi puisse initier, demander à ce qu'un audit soit initié. Dans beaucoup de pays, les enquêtes qui sont dirigées contre les transactions faites en RDC, vous avez le cas des États-Unis, qui est un cas qui est patent où M. Dan Gertler et toutes ses entités sont sanctionnées. Donc, pour nous, en tant qu'ONG, nous disons que si à l'étranger, ces entités-là sont poursuivies, pourquoi pas dans les pays où elles ont eu lieu.
Le président Félix Tshisekedi avait annoncé à son arrivée au pouvoir l'année dernière que la lutte contre la corruption était son cheval de bataille.
Merci Eddy Sango. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous, partout sur le continent.
restez au cœur de l'info sur VOA Afrique.